Mali, terre des hommes, l'ouvrage d'un homme, Éric Bertrand, qui part au Mali pour découvrir l'Afrique, mais aussi pour se découvrir. Mali, terre des hommes, c'est là que vous racontez un petit peu la découverte de ce pays, donc d'Afrique de l'Ouest, mais avant tout la découverte de vous-même. Mmh. Alors, c'est tout un programme, c'est certain. On sent le voyage quelque part initiatique d'un homme qui part trouver quelque chose.
Oui.
Quoi ? Ça, on va essayer de le découvrir au cours de cette conversation. Mmh. Alors, avant tout, quand on commence à lire Mali, terre des hommes, on rentre dans une remise en question.
Mmh.
Qu'est-ce qui vous a amené à partir?
Bon, c'est toujours une croisée de chemin. Il arrive quelque chose, plusieurs événements dans la vie qui me font réaliser que je n'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire. Mmh. Et je me réaligne vers l'accomplissement de rêves d'adolescence ou de jeune adulte que je n'ai pas réalisé. Et puis, je me dis, bon, quand on veut, tout est possible. Et puis, j'ai arrangé ma vie pour pouvoir accomplir ces rêves-là, dont celui d'aller en Afrique. Et un deuxième rêve important que j'avais, c'est d'écrire un livre. Alors, c'est comme
d'une pierre deux coups.
C'est ça, une fusion de deux rêves. C'est un livre plein de rêves.
Pourquoi envie de partir en Afrique? D'où venait cette envie-là?
Je crois que c'est parce que c'est une région du monde où nous, les Québécois, on ne connaît pas. On n'apprend rien sur l'Afrique ou presque à l'école, dans les actualités. Alors, c'était mystérieux. Et aussi, j'ai une tante qui était coopérante, qui a séjourné dans trois pays différents africains. Alors, ça m'a toujours intrigué de recevoir ses cartes postales et ses récits en revenant et tout ça. Alors, c'est un peu pour ça que ça m'attirait. Je sentais que ça me ressemblait.
Ce qui est intéressant, c'est que dès le début du livre, on rentre un petit peu dans ce qui se passe dans votre tête. On rentre en contact avec Josette, ce personnage que vous avez nommé comme étant une sorte d'alter ego à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est en plein ça.
qui en fait vous pose des questions, vous pousse quelque part à vous remettre en question en vous attaquant d'une certaine manière. Alors, est-ce que partir au Mali, ça a été vous faire violence un petit peu?
C'était le personnage de Josette, c'est un peu pour aller un peu plus loin dans l'analyse de mes sentiments et aussi l'analyse de la culture malienne. Quand je l'analysais par moi-même, je sentais que je me bloquais par pudeur ou par peur d'être critiqué. Alors, ce personnage-là, qui est neutre, qui n'est pas vraiment à moi qui parle, peut aller plus loin dans le questionnement et tout ça et me fait réfléchir dans un dialogue qui est plus dynamique dans l'écriture.
Avant de partir au Mali, vous auriez pu partir juste en tourisme, mais finalement, vous avez décidé de ne pas faire ça. Vous vous êtes inscrit au Centre de formation en coopération interculturelle pour partir au Mali et faire quelque chose de précis. Finalement, quand vous êtes parti au Mali, qu'avez-vous fait?
Bon, ce sont des stages professionnels qu'on fait avec le CFC. On a une formation de 18 semaines à Rivière-du-Loup et après, on part en stage pour 18 semaines. Et là-bas, je travaille ici dans le domaine de l'eau, dans une usine de filtration de l'eau à Saint-Lambert. Et on m'a trouvé un milieu de stage dans le domaine de l'eau au Mali. Et mon travail, c'était avec un Malien, de faire. On avait une cinquantaine de villages sous notre responsabilité et on faisait des animations villageoises et tout pour évaluer la situation actuelle de l'approvisionnement en eau potable et aussi des équipements d'assainissement, comme les latrines. Tout ça dans le but de pondre un rapport qui irait dans le sens de l'atteinte des objectifs du millénaire de 2015. Alors, on voulait voir l'état de la situation pour mieux cibler les prochains investissements.
Étapes.
C'est ça.
Au Mali, vous êtes entré en contact avec quelque part que vous ne connaissiez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est quand je lisais votre livre, avant même de partir au Mali, vous êtes senti étranger à Rivière-du-Loup.
Oui.
Pas si loin que ça, c'est quand même pas mal. Parce que Rivière-du-Loup, par rapport au Mali, c'est quand même la porte à côté.
Oui, oui.
Et comment est-ce que ça vous a mis en situation, en fait, de devoir même vous adapter par rapport à Rivière-du-Loup, qui est si proche de vous?
Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte que, bon, premièrement, on avait un professeur sénégalais.
Oui, M. Lamine.
Oui, c'est ça.
Un personnage coloré.
Oui, c'est ça. Que je parle dans le livre. Je me suis rendu compte que c'était la première personne noire à qui je parlais vraiment, que j'avais une interaction alors que j'avais 39 ans à l'époque. Mm-hmm. Alors, ça m'a vraiment abasourdi. Et puis aussi, j'étais en chambre avec deux beaucerons de la profonde Beauce qui avaient un accent incroyable. Mm-hmm. Alors, j'avais de la difficulté à les comprendre. Alors, je me suis dit, bon, on est parfois étrangers en son propre pays. Mm-hmm. Et puis, je prenais ça comme une préparation à ce qui s'en venait. Mm-hmm.
Comment est-ce que ça vous a préparé? Qu'est-ce que vous avez vécu un choc quand vous êtes arrivé au Mali?
Bien, il y a eu des chocs positifs, mm-hmm. dans le sens que les idées que je me faisais de l'Afrique ont été complètement déconstruites dès mon arrivée. Je m'attendais à voir complètement dévasté.
Exactement.
Qui manque de tout et que les gens sont tristes. Et puis, mm-hmm. et au contraire, j'ai vu des sourires, beaucoup de chaleur humaine, de la marchandise en abondance, des couleurs, des senteurs, de la nourriture en abondance, on n'arrêtait pas de me gaver partout, mm-hmm. où je passais.
Mais c'est ça qui est intéressant. Il y a une expression que j'ai retirée, c'est « vous étiez sous d'abondance ». Mm-hmm. Et c'est quand même incroyable parce qu'effectivement, on part en Afrique, l'idée reçue est de se dire qu'il n'y a rien. Mm-hmm. Mais en réalité, il y a presque trop.
Oui.
Presque trop de stimuli même.
Oui. Ouais. On devient saturé à chaque jour par le mm-hmm. trop de stimuli. On est, comme je disais, il y a des senteurs, des goûts, des couleurs, il y a trop de choses nouvelles pour pouvoir assimiler tout. Notre cerveau fait
il bloque.
Oui, il faut dire, j'en ai assez pour aujourd'hui. Mm-hmm. Parce qu'il y a un proverbe malien qui dit « L'étranger a des gros yeux, mais il ne voit que ce qu'il ne connaît déjà. »
Ah.
Alors, ça résume bien... Mm-hmm. La situation d'un étranger en mm-hmm. Afrique.
Je trouve ça intéressant également ce que vous dites, parce qu'à un moment donné, dans votre livre, vous dites quelque chose d'intéressant. Il y avait un de vos amis, je pense, qui voulait absolument parler des femmes blanches et des femmes canadiennes. Mm-hmm. et vous restiez dans le vague, et je vais citer, vous dites « Je voulais éviter les discussions permettant les comparaisons entre les deux mondes. » Pourquoi?
Oui. Parce que je voulais surtout pas qu'ils idéalisent mon mode de vie occidental, mm-hmm. et le pays d'où je venais, parce que je suis conscient que c'est pas parfait. Mm-hmm. Même que je suis très critique face à ma société, je l'étais avant, je le suis encore aujourd'hui différemment. Dans leur société, dans la société malienne, il y a beaucoup de bonnes choses comme de moins bonnes, comme mm-hmm. dans toutes les cultures du monde. Mm-hmm. Alors, partout dans mon parcours, j'ai tenté de... qu'ils gardent leur fierté et qu'ils n'envient pas la mienne. Mm-hmm. Parce que je trouve que toutes les cultures s'équivalent à la fin.
C'était pour rester un petit peu sur un pied d'égalité, en fait? Est-ce que c'était pour vraiment que vous soyez juste deux hommes face à face?
Oui, c'est ça. Et aussi parce que c'est pour cette raison-là aussi que je mettais de l'énergie à apprendre leur langue et mm-hmm. tout ça, et leurs coutumes pour... Mm-hmm. Essayer d'être égal et non pas imposer mes façons de faire et mes habitudes culturelles.
Mmh. En tant qu'homme, comment est-ce que ça vous a changé d'être au Mali, justement, dans cette société patriarcale?
Eh bien, c'est un peu déboussolant parce que, étant donné que c'est une société patriarcale, on a souvent des privilèges, entre guillemets, on a la meilleure nourriture, des bonnes places. Les jeunes nous laissent les meilleures places ou mm-hmm. les femmes nous laissent... Alors, on rentre dans un autobus, il y a quelqu'un qui se lève pour laisser la place. Alors, je me questionnais toujours, est-ce que c'est parce que je suis un homme ou je suis blanc mm-hmm. ou je suis un visiteur? Mm-hmm. Parfois, j'insistais pour... Non, je vais m'asseoir dans le couloir mm-hmm. comme les autres et puis je vais prendre le siège défoncé qui est là. Mais c'était difficile parce que des fois, je les froissais en refusant ce qu'ils m'offraient. Alors, mm-hmm. j'ai appris qu'il fallait prendre ce qu'on m'offrait.
Voilà.
C'est accepter pour mm-hmm. de prendre... Bon, ils sont de bonne foi mm-hmm. et puis je me plie aux coutumes et mm-hmm. puis ça allait bien comme ça.
Mm-hmm. Dans votre famille, quel genre d'homme est-ce qu'ils ont récupéré après votre voyage? Est-ce que vous êtes le même, finalement?
Il y a eu des gros changements. Mm-hmm. Et, c'est surtout au niveau de la présence. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus dans le temps présent. Mm-hmm. Je suis plus actif. Je crois que mes enfants aiment le nouveau père que je suis mm-hmm. parce que j'étais beaucoup présent avant, mais maintenant, j'apprécie, je chéris les moments avec eux. Mm-hmm. Et ma femme a trouvé un homme dynamique qui fonce maintenant dans la vie, qui a plein de projets. Et puis... Mm-hmm. Elle aime ça, un homme vivant, et puis mm-hmm. la vie est plus belle. J'ai le goût de m'impliquer aussi dans ma société et aussi de continuer des projets pour l'Afrique. Et puis, en revenant de là-bas, je me sentais comme puissant parce que j'ai bâti une grande confiance en moi à travers les projets qu'on a faits, puis les adaptations culturelles que j'ai réussies, tout ça.
Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de la culture malienne?
Ah, c'est l'importance du rapport humain. C'est vraiment touchant et ça nous foudroie à chaque fois que c'est, y a rien de plus important que l'autre. On le salue pendant longtemps, on salue tout le monde. Et c'est pas simplement par habitude, c'est vraiment important. On demande des nouvelles et puis de votre frère, de votre père, ces salutations-là. Et aussi le fait qu'ils sont extrêmement généreux, ça touche parce que des fois, on voit bien qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais ils offrent le meilleur qu'ils ont, toujours, sans rien espérer en retour. Ce à quoi on n'est pas habitué ici. Alors, c'est touchant et ça change pour la vie après.
Alors, est-ce que vous avez l'intention de repartir au Mali?
Eh bien, au mois d'octobre dernier, je suis retourné là-bas.
Ah, excellent, déjà.
Et puis, ça faisait 3 ans que j'étais au Québec. Et puis, j'ai toujours gardé contact avec mon ami Drissa Touré. Et puis, je suis retourné le voir. On a voyagé un peu au pays d'Ogon là-bas. Et puis, j'ai retrouvé des amis. Et puis, j'ai été voir les projets de coopération qu'on a fait et les projets de reboisement qu'on a fait ensemble aussi. Alors, c'était bien agréable de retrouver toute l'atmosphère africaine.
Alors aujourd'hui, vous êtes Québécois, vous êtes Malien, vous êtes Québéco-Malien, vous êtes citoyen du monde. Qu'êtes-vous?
J'ai pris le meilleur des deux cultures. Et puis, j'ai passé par des extrêmes en revenant. Et le meilleur à faire, c'est de prendre le bon de l'Afrique et le bon d'ici et de rien rejeter. Et puis... De continuer.
Et devenir un individu plus riche.
Oui, c'est ça.
Alors, je voulais juste mentionner rapidement votre projet également dans les ventes de ce qui est lié aux ventes de votre livre et que je trouve extraordinaire. C'est un projet de reboisement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, eh bien, on a fait un projet de reboisement déjà en 2007, en 2008. Avec l'école de ma fille, on a fait une levée de fonds. Bon, je vais passer rapidement. Et on a construit des latrines pour des écoles. Et aussi, on a planté des arbres, 240 arbres cette fois-là. Et on a vu que c'était vraiment un grand succès, planter des arbres aux écoles. Parce que les élèves, durant la saison sèche, les arrosent. Et quand ils sont en vacances scolaires, la saison des pluies arrive. Alors, c'est formidable. Et puis, ça améliore beaucoup la santé publique. Et puis, par l'ombre et par la diminution de la poussière et tout. Alors, ça fait surtout un milieu de vie agréable pour les enfants et pour le village aussi. Une fois, j'étais entré dans un village de Campoloso et j'ai vu un petit boisé. Et c'était formidable. La différence, ça faisait la fraîcheur, les oiseaux, les enfants qui jouaient au ballon à l'ombre. C'était vraiment un monde extraordinaire que je voyais pas ailleurs. Alors, je me suis dit, ce serait bien que les Maliens puissent avoir une qualité de vie aussi.
Absolument.
Pas seulement survivre et travailler. Et puis, tous les droits d'auteur vont servir à planter des arbres dans les villages que j'ai parcourus. Et Drissa Touré m'aide à trouver ceux qui veulent bien en avoir, et puis où sont les priorités et tout ça. Alors, on travaille encore ensemble.
Un excellent projet.
Oui.
Ben, je vous remercie chaleureusement.
Merci beaucoup.
Alors, Mali Terre des Hommes est aux éditions Bertrand Dumont, éditeur.